Bonjour, comme annoncé, le débat politique de Radio Ndikuluka d'aujourd'hui traite de la question du dialogue républicain qui s'ouvre ce lundi après plusieurs demandes de l'opposition démocratique et de la société civile pour la tenue d'un dialogue avant les élections groupées du décembre 2020. Le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, a finalement accepté de discuter avec ses pairs politiques. Ce dialogue a un autre caractère. Il sera tenu sans les membres des groupes armés. Plus de 400 délégués issus de différentes couches sociales de Bangui et des autres régions de Centrafrique sont invités. Plusieurs thématiques sont retenues. Il s'agit de paix, sécurité, gouvernance politique, état des droits, renforcement démocratique et institutionnel, développement économique et social, politique étrangère et coopération internationale, ainsi que la mise en œuvre des recommandations du dialogue républicain. Question Patara du jour, quelle est la valeur ajoutée de ce dialogue républicain? Pourquoi ne pas tenir compte des recommandations du forum de Bangui? Les thématiques retenues feront-elles l'unanimité? Les délégués auront-ils le temps d'exposer les vrais problèmes qui gangrènent la société centrafricaine? Et si jamais ce dialogue connaît un échec, quel sera le plan B du gouvernement centrafricain? Voilà tant d'interrogations qui feront l'objet de ce débat d'aujourd'hui. Et nous avons comme invité Évariste Ngamana, premier vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole du mouvement Cœur Uni du président Touadéra. Monsieur, bonjour.
Bonjour Armando et bonjour à tous nos auditeurs.
Christian Gazambeti, bonjour.
Bonjour.
Coordinateur du mouvement Jeune Debout, personnalité politique indépendante. Pamela Deron, présidente du Conseil national de la jeunesse centrafricaine. Bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndekeluka.
Et nous avons Joseph Bendunga, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndekeluka.
Député président du mouvement démocratique pour la renaissance de Centrafrique, MDRC. Monsieur, nous sommes ici pour le débat politique. Armando Nguendis et moi, une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Ouvrons ce débat avec vous, hein, Monsieur Ngamana. Ce dialogue républicain organisé par le pouvoir a-t-il sa raison d'être?
Je vous remercie, Armando. Je voudrais d'abord saisir cette occasion pour saluer tous les auditeurs de Ndekeluka. Et je m'en vais très rapidement dire que d'abord, le dialogue républicain est un souhait, est un vœu, est une initiative du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin-Archange Touadéra, qui, au lendemain de sa réélection et de son installation au pouvoir, il a pu faire une consultation de toutes les entités, c'est-à-dire toutes les forces vives de la nation, pour pouvoir lancer l'idée de ce dialogue-là. Et donc, pour moi, je pense que ce dialogue est nécessaire, puisque ça permettra de faire un état de lieu de la République et d'envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme et avec bon espoir, mais de manière sereine, puisque vous savez que notre pays a traversé beaucoup de crises. Et aujourd'hui, quand on parle de paix, la paix c'est un processus. Et quand on a la recherche de paix, il faut dialoguer. Et ce dialogue, comme le nom le stipule, c'est un dialogue républicain. Républicain, c'est-à-dire dans le respect de la constitution de notre pays et dans le respect des institutions de la République.
Monsieur Gazambeti, la même question, hein, on va faire le tour de la table. Est-ce que ce dialogue qui s'ouvre d'ici peu, d'ici lundi, selon vous, est à point nommé?
Armando, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune nation qui ne peut se développer dans le bon sens, qui ne peut évoluer vers le bon sens sans un dialogue entre les fils et les filles du pays. Donc, est-ce que ce dialogue est à point nommé? Oui, c'est à point nommé. D'abord parce que nous voulons évoluer en République centrafricaine vers le bon sens. Ça, c'est un. De deux, c'est à point nommé parce que ce dialogue avait été demandé par une large majorité de la population. J'ai écouté que précédemment, vous avez dit que ce dialogue, en introduction de l'émission, avait été demandé par l'opposition démocratique.
La société civile et plusieurs... Et plusieurs
Voilà, mais pour moi, je mets ce dialogue tout d'abord à l'actif du président de la République et également de tous les dirigeants de la classe politique et de toutes les forces vives de la nation. C'est un dialogue qui a été demandé par les centrafricains. Et au moment là où ce dialogue se passe, c'est à point nommé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élection en vue, à part les élections que nous devons avoir municipales, mais il n'y a pas d'élection ni présidentielle ni législative. Donc, compte tenu de ce contexte, j'ose espérer que dans ce dialogue, nous serons éloignés de calculs à but électoral. Parce que si ce dialogue avait eu lieu avant les l'élection présidentielle et les élections législatives, je suis convaincu que les acteurs, les différents acteurs qui iront autour de la table n'iront pas avec le même esprit que maintenant. Aujourd'hui, c'est aller autour de la table pour parler d'une chose, c'est le bien-être de la République centrafricaine. Donc ce dialogue est à point nommé. Et encore une fois de plus, je félicite toute la classe politique centrafricaine pour cette initiative et le peuple centrafricain.
Madame Pamela Terom, si les jeunes sont aussi conviés à ces assises, quelle serait la motivation du Conseil national de la jeunesse ?
Merci. Je voulais d'abord répondre à la question de ce dialogue. Est-ce qu'elle est à point nommé ? Moi, je pense que oui, parce que en tant que jeune, en tant que conseil, nous pensons et nous l'avons toujours dit dans nos multiples déclarations que nous avons besoin d'un dialogue permanent. Un dialogue permanent, comme je l'ai dit, c'est à plusieurs niveaux et je pense que c'est aussi au niveau de la base au sein de la société. Donc pour nous, nous pensons que ce dialogue est vraiment une belle opportunité, effectivement, pour que nous puissions, en tant que Centrafricains et fils de ce pays, projeter vers l'avenir. Projeter vers l'avenir pour nous, jeunesse centrafricaine, et en ce qui concerne la crise que nous traversons, mais c'est de réfléchir autour des actions qui peuvent amener la République centrafricaine à sortir de cette crise. Et pour nous, c'est centrer cette réflexion, c'est les différentes réflexions autour de la prise en compte de la jeunesse centrafricaine au centre de ces débats. Nous accueillons à bras ouverts ce dialogue-là et nous sommes préparés. Pour cette raison-là, nous avons eu depuis 2 jours à organiser des assises, tant au niveau de Bangui, mais dans les 16 préfectures, afin de recueillir les avis, les messages forts de la jeunesse centrafricaine qui seront portés lors de ce dialogue-là. Donc voilà comment est-ce que nous nous préparons par rapport à ce dialogue et avec nos messages que nous allons amener afin que la République puisse se pencher là-dessus.
Nous allons analyser un à un les grands points, comme vous l'avez dit. Monsieur Bendunga, vous faites exception, vous ne prenez pas part à ces pourparlers. Pourquoi ?
Eh bien, la raison est simple, on ne va pas dialoguer pour dialoguer. Mais on doit dialoguer pour trouver les solutions aux maux qui minent le pays et résoudre ces problèmes. Alors, un dialogue après les élections, non. La République centrafricaine, on savait que les choses allaient mal et aller aux élections dans les conditions qui s'étaient tenues, c'était aller vers la catastrophe. Le MDREC a été le tout premier à demander au chef de l'État la tenue d'un dialogue préliminaire à l'organisation des élections. Je viens d'entendre que normalement maintenant le dialogue peut se dérouler parce qu'il n'y a pas de contrainte. Je dis non. Avant de jouer, de commencer un match de football ou bien de basket ou de combat de boxe ou de karaté, de taekwondo, l'arbitre doit donner ses consignes. On avait vu que le pays se portait très mal et qu'il fallait que les Centrafricains se parlent. On nous a refusé ce dialogue. Voilà maintenant que quelqu'un a présenté son programme. Il est élu président de la République. Aujourd'hui, sur la base d'un programme. Et les gens vont se retrouver pour dialoguer alors que ce qui a amené la République centrafricaine à vivre ces moments très difficiles, plus pénibles que les autres que nous avions vécu, c'est entre deux hommes. L'un qui se considère comme seigneur et l'autre qu'il considère comme son vassal. Le seigneur, c'est M. François Bozizé. Et la personne qui prête de son vassal, c'est Faustin Archange Touadéra. Mais les gens qui vont parler, les 450 centrafricains qui vont se parler là, les blablabla, le forum de Bangui a déjà tout dit ce qu'ils vont dire demain, pendant les 7 jours là. Et in fine, nous allons nous retrouver dans la même situation. Et le forum de Bangui est un échec parce que ce forum-là devait nous permettre de sortir. Et une fois sans les œuvres, la volonté de parler des Centrafricains, sans la volonté d'agir, ne permettra pas à la République centrafricaine de sortir de cette crise. Et le MDREC, nous avons dit que nous ne viendrons pas blablabla. Si Bozizé est en N'Djamena avec toute sa bande là-bas et les autres en pleine bourse pour traquer les Centrafricains, les mettre mal à l'aise, les assassiner, les tuer. Et je vois Touadéra, au nom de son dialogue républicain, se retrouver avec ses amis. Ça, ce sont des échanges, mais le dialogue se fait entre des gens dont ils ne se comprennent pas, les choses vont mal, ou bien si les choses vont bien, c'est pour dire qu'on devait faire mieux que ça. Et aujourd'hui, le terme républicain, là, il faut l'enlever. C'est les palabres habituelles de la République centrafricaine. Et ça finira par « Eyetere na popotie, Eyetere tongana itao ». Et puis, après, retomber dans les mêmes bêtises.
De par vos analyses, ce dialogue, il y a, cela doit se tenir entre l'ancien président Bozizé et son ancien Premier ministre. Toi diras, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas, que c'est entre les deux qu'il devrait avoir ce dialogue, comme a dit M. Bendunga, M. Ngamana.
Je vous remercie. Je respecte l'opinion du député Bendunga. Je pense pour ma part que les contextes ont évolué, même si l'opposition avait sollicité entre-temps un dialogue avant la tenue des élections. Quand bien même ces élections se sont tenues dans des contextes difficiles, mais aujourd'hui, l'ordre constitutionnel est là. Il y a un président de la République qui a été élu, il y a un parlement qui est mis en place, dont M. Bendunga et moi-même, nous faisons partie. Et pour moi, il n'y a pas un temps pour le dialogue. C'est en cela que je rejoins Pamela qui disait tout à l'heure que le dialogue doit être permanent. Et on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. L'opposition dont faisait partie M. Bendunga, qui réclamait hier le dialogue, aujourd'hui, ce dialogue est sollicité et appelé de tous les vœux par les Centrafricains. Et bon, d'autres se rétractent, c'est leur volonté. Mais je pense pour ma part que le dialogue n'est pas seulement l'affaire de M. Bozizé et du président Touadéra. Nous avons vu dans quel contexte l'ancien président Bozizé est rentré au pays. De manière, à la limite, comme, je ne sais pas.
De manière clandestine,
je voulais dire. Et malgré cela, le président de la République est resté constant dans sa logique de main tendue. Sauf que vous allez voir que, par surprise, nous allons connaître ce qu'on appelle la rébellion CPC, qui allait justement mettre en mal les fondamentaux de l'État et même bousculer toutes les institutions mises en place. Aujourd'hui, la RCA n'est pas l'apanage exclusif de M. François Bozizé, qui peut-être, comme le disait Bendunga tout à l'heure, qui traite les autres comme ses vassaux. Mais c'est la RCA est l'apanage de tout le monde. Et en tant que centrafricain, moi je pense que si nous devons aujourd'hui parler de l'avenir de notre pays, il faut rassembler toutes les filles et toutes les filles et tous les fils de ce pays. C'est pour cela que vous voyez, ce dialogue va rassembler non seulement les partis politiques de la majorité, de l'opposition, la société civile, la jeunesse, les minorités, les femmes, etc. Donc, la République centrafricaine, ce dialogue-là permettra à la République centrafricaine, comme je le disais d'entrée de jeu tout à l'heure, de faire un état de lieu. Qu'est-ce qui a marché jusque-là et qu'est-ce qui n'a pas marché? Même si ça peut être des redondances, comme il le dit, mais je pense que le contexte a évolué et nous allons peut-être, au sortir de ce dialogue-là, avoir des recommandations, des résolutions qui ne sont pas forcément celles qui étaient hier. Et pour ma part, ce dialogue ne peut pas se tenir qu'entre deux individus. C'est pour cela que le président de la République a procédé par une consultation de forces vives de la nation et a mis en place, après cette consultation, a mis en place un comité d'organisation au sein duquel se regroupent toutes ces entités qui a travaillé. Et aujourd'hui, il est question que nous allions à ce dialogue-là. Je pense aussi que nous ne pouvons pas faire un jugement a priori. Nous ne devons pas baigner dans le pessimisme, étant entendu que nous n'avons pas encore les résultats de ce dialogue, donc nous ne pouvons pas faire un jugement de valeur.
On y revient, M. Ngamana. Les mouvements armés restés fidèles à l'accord politique du 6 février 2019 poursuivront leurs discussions ou les discussions avec le gouvernement dans le cadre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation APPR. Mais seulement un an après, les scienteurs ont claqué la porte. M. Gazambiti, est-ce que les négociations ont été franches avec cette situation, si on veut parler des groupes armés de l'autre côté et avec ceux qui n'ont pas tenu les armes, comme a dit le président de la République, un dialogue républicain d'ici, comment ça va se faire selon vous?
Votre question ici est assez profonde et quand vous me demandez si est-ce que les négociations étaient franches, ben je vais vous répondre, Armando, je n'étais pas dans la salle lorsqu'ils ont négocié ensemble.
De par leur comportement,
ce que je peux dire en toute sincérité, c'est que nous allons à un dialogue républicain. Il y a, vous les appelez des groupes armés, moi je les appelle des groupes terroristes. Ça, un chien c'est un chien, un chat c'est un chat, c'est mon opinion. Je pense que la Constitution me donne le droit de le dire dans des médias publics ou privés. J'appelle ces groupes des groupes terroristes qui ont signé un accord où ils s'engageaient à déposer les armes et à rentrer dans la République. Vous avez dit qu'après un an ou un an et demi, ils ont claqué la porte. Ils n'ont pas tous claqué la porte, à ce que je sache. Ceux qui ont claqué la porte se sont retrouvés dans une nébuleuse terroriste qui a été appelée CPC, comme l'a dit le député Ngamana. Et ceux-là, aujourd'hui, sont mis à mal. Certains sont en fuite, à N'Djamena, comme l'a dit le député Bedunga. D'autres sont en brousse. Et il y a certains de ces groupes qui sont demeurés fidèles à leur engagement. Aujourd'hui, les négociations doivent continuer à se poursuivre. Ça doit continuer à se poursuivre. Il faut un dialogue permanent avec les personnes qui ont décidé de déposer les armes et de rentrer dans la République. Maintenant, ceux qui ont décidé de se mettre hors de la République, qui sont des hors-la-loi, je mets un nom sur C, l'ancien président Bozizé, pour moi, est un hors-la-loi. Aujourd'hui, les groupes armés, des groupes terroristes qui ont décidé de rejoindre, de se mettre dans la CPC, aujourd'hui, pour moi, sont des hors-la-loi, qui n'ont pas leur place dans ce dialogue. Le député Bedunga disait tantôt que le dialogue doit se passer entre ces personnes-là qui ne s'entendent pas. Nous avons d'un côté des personnes qui ont attaqué la République. Je ne suis pas du parti au pouvoir, je suis né dans l'opposition. Vous avez dit tantôt, je suis indépendant. Nous avons des personnes qui ont attaqué la République et nous avons les personnes qui ont la légitimité de pouvoir défendre les institutions par ce qu'on appelle la violence légitime, qui ont réagi, qui ont défendu les institutions. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ils ont fait leur travail. Donc aujourd'hui, comment discuter avec un ancien président de la République qui était garant des institutions, qui était garant de la Constitution et qui sait que prendre le pouvoir par les armes est banni par notre Constitution et qui, 10 ans après avoir été au pouvoir, reprend les armes? Non, je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas de dialogue de trop, mais il faut voir les formes de ce dialogue. Et dans ce dialogue républicain, il y a...
Mais si aujourd'hui nous sommes en train de chercher à résoudre un problème, pourquoi ne pas commencer à traiter ce problème-là à la profondeur, à la racine?
Le président de la République, de ce que je sache, a dit qu'il y a toujours eu un dialogue permanent entre le gouvernement et les groupes armés. Monsieur Ngamana est le porte-parole du mouvement Cœur Uni, je pense qu'il ne va pas nier cela. Il a toujours eu un permis, il a toujours eu un cadre où le gouvernement dialoguait avec les groupes armés.
Mais si vous voulez bien, je vois Monsieur Ngamana qui vous répond quand vous l'avez.
Oui, justement sur cette question, je voudrais rebondir parce que en préambule à ce dialogue, je crois qu'on était invité à Saint-Edidio, ma sœur Pamela aussi était là, et c'était deux choses. Et nous étions tous tombés d'accord dans la déclaration finale. C'est que nous allons vers un dialogue républicain. Et comme je l'ai dit, qui dit républicain dit ceux qui sont dans la République. Quelqu'un qui a pris les armes n'est pas un républicain. C'est un hors-la-loi, comme a dit M. Gazambetti. Ça, il faut le reconnaître. Deuxièmement, puisque le président de la République n'est pas fermé au dialogue, il dit que les groupes armés qui ont accepté de déposer les armes et qui veulent revenir dans la République, il y a un canal B pour eux qui s'appelle l'APPR et le DDRR. Et nous avons aussi la feuille de route de Luanda. Donc, c'est des canaux par lesquels ceux-là qui veulent revenir dans la République doivent revenir par là. Deuxièmement, Armando, quand on parle de dialogue, il ne faut pas occulter un aspect. Ce dialogue n'est ni l'occasion d'une prime à l'impunité, ni l'occasion de partage de gâteaux. Et ça, à Rome, nous l'avons signifié clairement. Parce que quand M. Bozizé est rentré au pays, il n'a nullement été inquiété. Dès lors que la Cour constitutionnelle a invalidé sa candidature, il est rentré en rébellion. Mais sa place n'est plus dans la République, sa place c'est devant la justice. Et puisque nous devons lutter aussi contre l'impunité, je pense qu'une des recommandations fortes de ce dialogue serait qu'il n'y aura plus de place pour ceux qui prennent les armes pour attaquer la République, parce qu'au moins une fois qu'on finisse avec ces crises récurrentes.
Oui, monsieur Bendunga, vous avez demandé la parole. Ceux qui ont rejoint la coalition des patriotes pour le changement CPC seront pris en compte dans le cadre de la feuille de route de Luanda initiée par la CIGL et la CAC. Pensez-vous que cela est suffisant pour ramener la paix définitive dans le pays?
Pourquoi les affaires centrafricaines vont-elles se traiter en Luanda? Est-ce que nous, centrafricains, nous ne sommes pas capables de nous regarder en face, de nous asseoir autour d'une table et décider de l'avenir de notre pays, de taire nos querelles et de vivre chez nous? Tout, on a été Saint-Égidio, on a été à Brazzaville tout le temps. On criait le doyen Bongo, ATT et tout ça. C'est voué à l'échec parce que jamais les Centrafricains, entre eux-mêmes, sont assis face à face et se parler sincèrement. Qu'on le veuille ou non, l'exemple tchadien, le jeune Déby qui a fait un coup d'État pour remplacer son père mort,
a compris la nécessité de parler avec son ennemi et il les a tous invités et quelque part dans un pays arabe pour discuter
en Arabie Saoudite.
Ou en Arabie Saoudite pour un pré-dialogue pour qu'ensuite ils se retrouvent dans leur pays pour traiter. Celui qui a tué ton père, celui qui a tué la République centrafricaine, François Bozizé, il faut voir l'historique de Bozizé dans toutes les crises centrafricaines. Le 3 mars 1982, M. François Bozizé est rentré en rébellion, non, a fait un coup d'état radiophonique pour placer Patassé au pouvoir. Ayant échoué, il a fui. Il a jeté les bases de ce qui est devenu les coupeurs de route, les arguinas, tout et tout. Ensuite, ce Bozizé-là, qui a voulu faire le coup d'état pour installer Patassé au pouvoir, étant Patassé au pouvoir, étant son chef d'état-major, il a constitué son armée au sein de l'armée nationale et Bozizé est revenu renverser Patassé. Bozizé maintenant, aujourd'hui, président de la République, incompétent, général d'opérette, a poussé les centrafricains, est allé dans leur dernier retranchement de souffrance et de misère. Les gens qui l'ont porté au pouvoir, il les a chassés, ils sont revenus le chasser. Je pense que si vous voyez un peu tout ce que j'ai pu dire ici, tous ceux qui ont mis à mal la République centrafricaine, en attendant d'aller devant le juge, doivent comparaître devant le peuple centrafricain. Nous voulons les écouter, Bozizé. Mais tu es allé en exil en Ouganda, tu es rentré sur la pointe des pieds, et voilà qu'on t'a remis. Et non, M. Ngamana a dit que... Non, quand Bozizé était venu, personne ne voulait de lui. Et Bozizé a commencé à s'animer, à s'agiter, et Bozizé est rentré dans l'opposition démocratique pour pouvoir faire parler de lui. Et c'est à partir de ce moment qu'on a senti qu'il va falloir composer avec Bozizé et on lui a donné ses attributs d'ancien président de la République. Mais comme l'appétit vient en mangeant, Bozizé, quand il a vu qu'on l'a chassé des élections, il est allé chercher ceux qui l'ont chassé du pouvoir pour venir renverser la République. Donc je pense
Mais de tout ce que vous avez développé, M. Oui. Benoga, vous avez compris que ça n'est assez trop. Est-ce que vous n'avez pas trouvé un autre cadre pour traiter son cas, comme vous l'avez dit?
Je pense que avoir Bozizé devant nous, afin de lui poser, le regarder face à face et lui poser la question. Mais Bozizé, qu'est-ce que tu veux pour ce pays? Qui es-tu? D'où sors-tu? Moi, si je lui pose cette question-là et qu'il me donne la réponse qui me satisfait, à partir de ce moment, je pense que je me tairai. Mais de la manière dont Bozizé a détruit la République centrafricaine, je voulais d'abord l'entendre, que le peuple l'entende avant qu'il ne comparaisse devant le juge. Si on voulait parler d'un dialogue républicain, ce dialogue-là n'aura de républicain que lorsque ce fils du diable-là, je le traite de ce nom parce que j'appelle le chien, et que le soi-disant doux Faustin Archange Touadéra puisse accepter que ce monsieur-là soit là.
Oui, Pamela, vous voulez réagir sur la question de la non-prise en compte dans ce dialogue de ceux qui ont tenu les armes? Ils ont déjà l'air cadre de discussion, comme a dit le chef de l'État. Vous pensez que ça va vraiment traiter la situation, les problèmes des Centrafricains?
Bon, je pense que nous l'avons dit, hein, et je le réitère encore à nouveau. Pour nous, en tant que jeunes Centrafricains, ce que nous voulons que notre pays retrouve la paix, c'est primo. Et deuxièmement, nous pensons aussi que nous ne pouvons pas organiser de dialogue séparé. Pour quelle raison? Parce que vous conviendrez avec moi qu'à un moment donné, certains Centrafricains se disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'APPR parce qu'ils n'ont pas pris part à l'APPR. Donc du coup, l'APPR ne le concernait pas. Et pourtant, l'APPR a été un cadre mis en place pour ramener la paix dans notre pays. On s'était engagé. Nous nous sommes engagés, la jeunesse, pour vulgariser l'APPR, même si de manière directe, on n'avait pas été associés. Nous n'avons pas pris part aux discussions. Aujourd'hui encore, nous avons la feuille de Luanda dont on nous parle. Nous sommes en train d'aller à ce dialogue républicain où c'est dédié, je pense, que aux forces vives la nation. Sont les groupes armés. Moi, maintenant, la question que je me pose, est-ce que demain, ces groupes armés ne diront pas, bon, vos discussions là-bas, ça n'a rien à voir avec nous. Mais par contre, comme je l'ai dit, je ne suis pas pessimiste. Et donc,
puisque nous voulons que le pays avance, nous sommes optimistes et on ne peut pas désespérer non plus. Nous voudrions.
En vous écoutant, ça veut dire qu'à l'issue de ce dialogue républicain, le gouvernement aura trois recommandations ou trois groupes de recommandations à gérer avec ceux qui ont tenu les armes, avec l'accord reconnu sous l'appellation de Khartoum, avec les recommandations et la feuille de route de Luanda à part, et les recommandations du dialogue républicain qui vont sortir bientôt à part, c'est ça ?
Et le forum de Bangui d'ailleurs, qui pour nous reste d'actualité, puisque le forum de Bangui, moi je l'ai toujours dit et j'ai soutenu cela, le format du forum de Bangui a commencé d'abord par le dialogue, la consultation à la base. Sur tout le territoire national. Les Centrafricains ont été consultés, ils ont donné leur avis avant qu'on remonte au niveau du forum. Et donc, pour moi, le forum reste d'actualité. Donc, c'est aussi l'occasion, c'est pour ça que j'ai dit que moi, je suis d'accord pour ce dialogue-là, parce que ça sera l'occasion d'évaluer effectivement les recommandations du forum de Bangui, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, pourquoi on n'a pas réussi à le faire. Donc, voilà là toutes les questions que je...
Oui, Gazambeti, Christian.
Oui, je voudrais rebondir. Je trouve que c'est assez important. Nous sommes dans un débat qui est d'une haute importance. Premièrement, je voudrais d'abord clarifier quelque chose de par ma position de personnalité politique indépendante. Le député Bedunga a parlé d'un dialogue qui s'est passé, qui a été initié par le président de la République du Tchad, M. Déby. Et en parlant de ce dialogue, il a dit que le président
de la République... Monsieur Déby-fils, c'est la précision.
Pardon ?
Monsieur Déby-fils.
Monsieur Déby-fils, oui, nous savons de qui nous... Oui, Monsieur Déby-fils, excusez-moi pour cela. Et Monsieur Bedunga a poursuivi en disant que Monsieur Déby-fils a fait un coup d'État, d'accord, qui a fait qu'aujourd'hui, il est au pouvoir. Aujourd'hui, je m'inscris en faux de cela. Pour moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Le président de la République du Tchad et le président de la République du Tchad, si M. Bedunga dit qu'il a fait un coup d'État, c'est son avis. Et je voudrais que les auditeurs qui nous écoutent, qu'ils soient centrafricains ou tchadiens, savent que Christian Gazambeti s'inscrit en faux de cette déclaration. Ça, c'est un. Je continue, M. Bedunga aura le temps de réagir. C'est toujours mon temps de parole. Nous allons maintenant sur le point où on parle de la non-présence de groupes armés, de ces groupes que je disais terroristes, à ce dialogue. Ma position personnelle est celle-ci. Ils n'ont pas leur place dans ce dialogue républicain. Monsieur François Bozizé n'a pas sa place dans ce dialogue républicain. C'est ma position.
Oui, ça c'est normal, mais quelle est donc la proposition ? Toujours dans la PPR, CGL, feuille de route de Luanda, c'est ça ?
Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses qui ont été faites et qui font qu'il y a une sécurité qui revient dans le pays, qui est revenue dans le pays. C'est indéniable. On ne dit pas que le pays est stable, mais on dit que le niveau d'insécurité qui régnait dans le pays il y a de cela quelques années, aujourd'hui n'est plus le même. Pourquoi ? Il y a eu des actions sur le terrain qui ont été menées. Que ça plaise à des personnes ou pas, ces actions ont porté des résultats. Et il y a des gens avec qui on dialogue, ce sont les gens qui décident de respecter les règles dans une maison.
Et ça, vous l'avez déjà dit.
Je finis, s'il vous plaît.
Quelques secondes.
Les personnes qui insistent et persistent à ne pas respecter les règles dans une maison, alors ces personnes, on arrête de dialoguer avec eux de la manière paisible et on utilise des moyens beaucoup plus coercitifs pour dialoguer avec ces personnes.
Oui, monsieur Bedunga, dans 30 secondes, pourquoi on ne voulait avant de donner la parole
à monsieur Gazambeti que je n'ai pas utilisé sa voix pour dire que Déby a fait un coup d'État au Tchad, mais c'est la voix de Bedunga et qu'il n'ait pas peur si on vient à un débat pour avoir peur parce qu'on risque de se faire arrêter ou de se faire tuer parce que quelqu'un a dit quelque chose.
Non, mais qui le dit, mon consent.
Écoutez, monsieur Gazambeti, ce que Bedunga a dit, c'est vrai, c'est une réalité. Le fils Déby a fait un coup d'État au Tchad.
Nous ne sommes pas sur ce point. Revenons à notre sujet.
Je reviendrai. Vous l'avez déjà évoqué.
Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur...
Je ne voulais pas que vous puissiez escamoter ce que j'ai dit.
Ça, c'est bon, vous l'avez dit, j'ai déjà dit.
Voilà, donc, je n'ai pas contesté la sécurité. Il y a un semblant de sécurité qui est revenu. Mais donnez-moi le bilan des actions militaires qui ont été menées contre la CPC. Les forces alliées avancent, la CPC se dilue dans la nature et c'est ce qui se fait toujours en République centrafricaine. Donnez-moi le bilan et à partir de ce moment-là, je dormirai sur mes deux oreilles. Mais en tant que... acteur avisé de la classe politique centrafricaine avec l'éternel recommencement.
Vous êtes pessimiste?
Je reste pessimiste.
Monsieur Ngamana, quelques secondes, pardon.
Oui, merci. Je voudrais très rapidement revenir un peu sur ce que vient de dire Monsieur Benunga. Je pense que si on admet ce qu'il a dit tout à l'heure concernant le Tchad, que le fils Déby a fait un coup d'État, en cela, nous ne pouvons pas dire que le fils Déby, qui est un chef d'État de transition et qui est arrivé là où il est par un coup d'État, si on reprend ce que dit Benunga, ne peut pas être comparé à M. Touadéra. Qui
il est meilleur que Touadéra parce que il dialogue avec celui qui a tué son père.
Et il est arrivé par le coup d'État. Il ne bénéficie d'aucune légitimité, d'aucune légalité.
Mais aujourd'hui, il est au pouvoir au Tchad. La communauté internationale traite avec lui. Oui, il est meilleur que Touadéra.
Vous dites une chose et son contraire.
Je ne dis pas son contraire.
Parce que la communauté internationale.
Parce que ce jeune.
Calmez-vous, monsieur Benunga.
Vous avez parlé tout à l'heure.
Voilà, souffrez que je.
Non, je ne peux pas accepter que.
Non, mais vous me prenez. Non. Non, vous reprenez après, vous reprenez après, oui, allez-y. D'accord.
Vous voudrez bien souffrir de m'écouter, M. Benunga. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Dès lors que quelqu'un a fait un coup d'État, c'est un hors-la-loi aussi.
Oui, c'est un hors-la-loi.
Nous ne sommes pas là pour
mais voir. Mais il est au pouvoir au Tchad, allez me le chasser du pouvoir.
Ce n'est pas l'affaire de la
chasser,
mais
pas mais il est meilleur que toi, déjà.
Monsieur Benunga.
Je dis simplement
que Monsieur Benunga. Monsieur
et
Benunga,
restaurer la paix sur tout le
monde. Monsieur Benunga,
alors que votre Touadéra est incapable de le faire.
Vous l'avez déjà dit. On écoute.
Bon, deuxièmement, quand Monsieur Benunga demande le bilan des actions militaires, je voudrais qu'il demande un bilan complet. Il ne faut pas que ce soit un bilan parcellaire ou partiel.
Non, je demande un
il
bilan.
Il faut qu'il nous dise aussi le bilan. Hein? Des exactions commises par la CPC.
Non, mais la CPC. Ça,
deuxièmement,
la CPC.
Pour monsieur Benunga,
la CPC
non.
a mis la République centrafricaine par terre.
Vous pouvez vous calmer.
Je n'ai pas fait l'éloge de la CPC.
Exactement.
Donc, avant
d'arriver au bilan des forces loyalistes qui ont réagi par rapport à une agression brutale contre la République, il faut faire aussi le bilan des exactions de ceux qui ont attaqué la République.
Non, mais les exactions...
Vous l'avez déjà monsieur Benunga, s'il vous plaît.
Nous l'avions condamné,
Benunga,
nous le reconnaissons. Mais
nous parlons
aussi du bilan des forces loyalistes vis-à-vis de la population centrafricaine.
Monsieur Benunga,
non, mais écoutez...
Est-ce que vous pouvez...
Est-ce que vous pouvez vous calmer un peu, monsieur Benunga?
Je suis calme, parce que je ne peux pas accepter...
Nous débattons en intellectuel.
Mais c'est en même temps.
C'est une école coranique, s'il vous plaît.
C'est un intellectuel que nous soutenons. Et un bon intellectuel, on ne doit pas être un menteur.
Monsieur Benunga,
revenons sur le forum de Bangui.
Monsieur Ngamana, poursuivez pour ne plus terminer.
Le débat doit être organisé. Nous ne sommes pas à l'école coranique ici. Je regrette.
Je sais, mais je n'accepterai pas de mensonge.
Le forum de Bangui,
c'est moi qui dirige le débat. Vous n'avez pas parlé. Prenez note. Vous allez
les consultations à la base qui ont précédé le forum de Bangui ont été claires. Ça dit que plus jamais ça, plus de coups d'État, plus de rébellions, etc. Et ces consultations à base, ce forum de Bangui a jeté la base d'une nouvelle constitution, qui est la constitution de 30 mars 2016, qui proscrit, dans cette disposition, qui proscrit tout ce qui est prise de pouvoir par la force. Aujourd'hui, des compatriotes qui ont pris part à ces assises, à ces forats, se permettent encore de rentrer dans la rébellion. Moi, je pense que c'est un acte de trop. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est hors de question, après tout ce forum-là, après l'accord de Khartoum, qui a eu des recommandations, dont même l'application a posé problème au niveau de certains groupes armés. L'une des recommandations, c'était quoi? C'était la dissolution des groupes armés. Mais nous nous sommes rendus compte que beaucoup n'ont pas été dit. Sur les 21 recommandations, et revenaient au gouvernement, le gouvernement, dans son effort, a appliqué au moins 15 ou 16. Alors que sur une dizaine de recommandations qui étaient destinées au groupe armé, à peine une ou deux qui ont été appliquées. Aujourd'hui, les gens qui étaient dans l'accord, la PPR, se permettent de rentrer encore dans la CPC, venir attaquer la République. Moi, je pense que leur place n'est plus dans la République. C'est pour cela que ce dialogue républicain appelle vraiment les compatriotes qui sont dans la République, c'est-à-dire qui respectent la Constitution, qui proscrit la rébellion, et qui respecte les institutions de la République.
Je rebondis sur ce que a dit M. Ngamana, la dissolution des groupes armés. À qui la faute?
Au groupe armé.
Non.
Ils n'ont pas
à des
sérieux.
Non. Touadéra a dit que je suis un président de la paix.
Il y a un mécanisme
je ne fais pas la guerre. Et c'est la faute de Touadéra. C'est l'incompétence de Touadéra qui a fait que ces groupes armés ont eu à sévir et à revenir pour encore
détruire le pays.
Pour vous rafraîchir la mémoire, je pense que cet accord-là a mis quand même en place un mécanisme.
Ce mécanisme est bidon parce que c'est la force qui crée le droit et Touadéra n'a pas voulu utiliser la force. Et quand vous avez vu que lorsque Touadéra a vu que son pouvoir était menacé parce que
la République était menacée.
Attendez, son pouvoir c'est
la République.
Non. Si c'était la République,
si la CPC est arrivée ici,
la République, c'est depuis Bokaranga quand ces gens-là ont commencé, la CPC a évolué pour venir à Bangui qu'on devrait les arrêter.
Monsieur Bendunga,
et prendre les.
Monsieur Ngamana,
oui.
Je vous invite, vous deux. Donc, voilà. Si ça vous va bien, avant
vous parlez d'école coranique, mais vous êtes plus muezzin que débatteur.
Calmez-vous. Avant d'aborder les thématiques qui feront l'objet des discussions lors de ces assises, Gisèle Prudence Huguet a donné la parole au Centrafricain. Je vous propose d'écouter les ravis.
Que la paix revienne et la sécurité pour permettre à chaque Centrafricain d'évacuer librement à ses occupations, de quitter Bangui, Pawa sans inquiétude, Alindao Bangui sans inquiétude, Birao sans inquiétude. Vraiment, les autres peuvent applaudir pour dire qu'enfin les Centrafricains ont réussi ce dialogue.
Nous attendons depuis pour que ce dialogue-là ait lieu et pour que la paix revienne
en Centrafrique. Nous les jeunes Centrafricains, nous avons des problèmes qui sont vraiment au-dessus de notre réflexion. Donc nous demandons ceux qui vont nous représenter au niveau de ce dialogue. S'ils parlent de leurs propres intérêts, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas les vrais fils de ce pays, mais de l'intérêt de tout le monde.
Je veux que la RCA retrouve sa paix. Nos parents vivaient dans la paix. Mais aujourd'hui, après des multiples crises, notre pays a traversé un moment difficile. Dans ces crises-là, on a tenu des dialogues et se soldé à des échecs. Et je veux pour ça là que les fils de ce pays, les fils dignes de ce pays, se regroupent et parlent de ce qui ne va pas dans ce pays. Et après, nous voulons le retour à la paix.
C'est pas bien d'aller au dialogue et négocier les postes ou bien pour chercher de quoi manger. Parce que si le pays est dans la paix, tu auras la paix et à travers cette paix-là que tu iras chercher de quoi manger. J'ai besoin d'être embauché, que les gouverneurs nous créent des entreprises comme ça. À la fin de mes études, j'aurai au moins à travailler et deviner ce que je veux.
Mes propos en question est basé beaucoup plus sur la réalisation des décisions qui pourraient bel et bien être prises par cette entité qui vont participer à ce dialogue. Et moi, j'aurais aimé à ce que les résultats qui seraient favorables pour l'avancement de la République centrafricaine en question. Parce qu'on constate que pas mal des dialogues qui se sont tenus, mais il n'y a pas de fruits productifs. Moi, en tant que Centrafricain, j'aurais aimé à ce que cet dialogue soit dans la transparence et que les Centrafricains puissent bel et bien retrouver leur place dans la société et vivre en paix.
Nous, les femmes centrafricaines, nous sommes vraiment fatiguées. Dans ce pays, on a trop souffert. On a beaucoup couru.
Tout ce qu'ils sont en train de faire, le tour de Babel, là. Dialogue, là. À la fin, ils vont demander par les deux ministres.
Voilà, c'était là les avis des Centrafricains, mais il faut tenir compte des aspirations du peuple. Est-ce que la forme de ce dialogue peut permettre de vider les mots qui minent le pays et aider les Centrafricains d'amorcer leur développement, comme vous venez d'écouter Madame Pamela Derom?
C'est l'attente de la population. En écoutant ces jeunes et ces femmes, comme je l'avais déjà souligné ici tout à l'heure, les Centrafricains attendent beaucoup de ce dialogue. Et nous pensons, en les écoutant, qu'effectivement, si ces questions évoqué ici, et d'ailleurs qui est revenu même hier lors de nos échanges aussi au niveau du conseil, en consultant les jeunes hier, des questions de tracasserie routière, des questions de sécurité, parce que les Centrafricains, et je l'ai dit, je le réitère encore, nous avons besoin de la paix pour vaquer à nos occupations. Nous avons droit de rêver, droit de vivre comme les autres citoyens du monde. Et pour ça, nous ne pouvons le faire que quand il y a la paix. C'est pour cette raison-là que nous avons opté pour qu'il y ait ce dialogue, mais qu'il y ait un dialogue franc, effectivement, afin que tous ces problèmes qui minent aujourd'hui la République centrafricaine soient débattus, même si nous le savons que nous n'allons pas aussitôt trouver des solutions, mais au moins que nous ayons un regard sur ces difficultés-là, afin que des solutions soient trouvées, mais le plus rapidement, afin que la République centrafricaine puisse retrouver sa place et que la jeunesse puisse émerger à tous les niveaux.
Monsieur Gazambeti, sur cette question, quand on voit les thématiques retenues pour cette discussion et en écoutant les Centrafricains, tout revient à cette thématique qui parle de la gouvernance politique et de l'état de droit. Selon vous, il faut prendre tout cela en compte ou bien il faut trouver une occasion pour parler de cela?
Le dialogue républicain qui s'annonce à partir de demain est l'occasion de venir mettre sur la table les questions essentielles qui peuvent amener à un meilleur avenir au bien-être de la République centrafricaine. Et parmi ces questions, il y a la question de la bonne gouvernance. Il y en a plusieurs autres. Il y a la sécurité, il y a la bonne gouvernance, il y a la justice. Il y a tellement de choses, des sujets qui fâchent à mettre sur la table. Mais c'est ça également la démocratie. C'est la contradiction des idées, c'est la confrontation des idées pour un objectif ultime, c'est-à-dire l'émergence, l'évolution de la population centrafricaine dans notre cas. Mais aujourd'hui, mettre un sujet en priorité à un autre dans notre pays...
Mais il y a priorité des priorités.
Oui, il y a priorité. Aujourd'hui, mettre un sujet en priorité à un autre dans notre pays me semblerait être suicidaire.
Mais la sécurité...
Il y a priorité des priorités.
C'est la sécurité.
La thématique numéro un, justement, c'est la sécurité.
Et c'est même la vie, ce sont les vœux des Centrafricains.
Sans la paix, il n'y aura pas de développement. Non.
Sans la paix, il ne peut pas avoir de développement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ne mettons pas un sujet en disant que ce sujet est plus important que tous les autres. Parce que à partir du moment, je donne un exemple très simple,
allez-y.
À partir du moment où la sécurité revient, d'accord, et que la corruption, la bonne gouvernance n'est pas quelque chose de prioritaire, au même titre que la sécurité, on va dire le pays est en paix. Il y a 5 ans, il n'y avait pas la paix. Aujourd'hui, le président de la République a ramené la paix. Vous pouvez aller de telle province à telle province sans vous inquiéter. Alors, le pays va bien. Et entre-temps, il y aura encore d'autres mots qui minent la République et que ces mots et ces choses qui ont été mises au second plan auront été des choses qui auraient dû également être mises au même stade que ce sujet qui est la priorité des priorités, la sécurité. Oui. Il y a plusieurs sujets
que vous pensez qu'il faut traiter au même moment sur le même diapason.
Au même moment, autour de cette table, parce que il en va de la survie de notre peuple.
Oui, là, il y a la paix et sécurité, il y a la bonne gouvernance et la gouvernance politique et l'état de droit. C'est quelques mots là, c'est quelques thèmes. Vous pensez, selon vous, M. Benougan, on devait les traiter exactement sur le même diapason où il y a la hiérarchisation qu'on pourrait définir dans ce...
Lorsque quelqu'un se propose de faire quelque chose, il définit quand même la priorité de ce qu'il voulait faire. Et lorsque vous voyez paix, sécurité, gouvernance institutionnelle, politique étrangère, coopération internationale, développement
économique et social.
Mais c'est un programme de gouvernement. Raison pour laquelle, moi, je dis que ce programme-là, c'est demander quelqu'un qui s'est fait élire bientôt un an, qui demande le peuple pour dire « Donnez-moi la feuille de route pour les 4 autres années. » Et je dis que ce n'est pas ça le dialogue. Donc, je pense que c'est un programme de gouvernement qui est là. Et la priorité, tout ce qui suit, dépend de la paix et de la sécurité. Et en même temps, dès que la paix commence à s'installer, au fur et à mesure, on commence à actionner les autres mécanismes. S'il n'y a pas la paix, comment allez-vous faire pour restaurer l'autorité de l'État? Par exemple, c'est la paix qui est la condition sine qua non de la restauration de l'autorité de l'État. L'administration va se déployer au fur et à mesure. S'il y a des erreurs, par exemple, aujourd'hui, on a évolué un peu le problème de raquetage des Centrafricains qui se pose. Mais ce problème-là, c'est par rapport à la chaîne de commandement de l'armée. Donc, au fur et à mesure, on va corriger, remettre le pays sur les rails, l'économie, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec la libération du corridor Bangui-Douala. Donc, je pense que à la place de Touadéra, c'est pas ça le thème de mon dialogue.
C'est pas Touadéra qui l'a défini.
Mais je dis, grosso modo, vous savez, quand c'est le système.
C'est Touadéra, le comité préparatoire du dialogue.
Le comité préparatoire, tout et tout, donnez tous les noms que vous voulez. Mais si c'est ça le thème du dialogue soi-disant républicain,
donc nous avons
c'est un problème de gouvernement. S'il manque de programme de gouvernement à Touadéra, on revient aux élections parce qu'il y a une question d'incompétence.
Oui, monsieur Ngamana.
Je crois que le président Touadéra a été réélu sur la base d'un projet de société.
Il a été très mal élu. Il a été élu par Bangui, Bimbo et quelques pays. Ce n'est pas le territoire centrafricain, les Centrafricains dans leur entièreté qui l'ont élu. Mais comme la Cour constitutionnelle a validé cela, nous avalons la couleuvre. Nous voulons évoluer. Son mandat est de 5 ans. Puisqu'il est là, mais qu'il applique ce qu'il demande là.
Pour moi, il faut que nous ayons un peu de considération pour les compatriotes quand même qui ont travaillé pour l'organisation de ce dialogue. Et j'avais souligné tout à l'heure, à l'entame de mes propos ici, que le comité d'organisation du dialogue est composé de toutes les entités.
Et ce n'est pas l'affaire de Touadéra, ce n'est pas Touadéra qui a imposé cette thématique, mais nous les avons déclinées de manière prioritaire. C'est un travail qui s'est fait de manière collégiale et nous avons travaillé sur plusieurs mois. Donc, en ma qualité de troisième vice-président du comité d'organisation, je pense que nous devons avoir de respect vraiment pour ces compatriotes qui ont travaillé pour pouvoir...
C'est vous qui...
Il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a la société civile.
C'est ce programme de gouvernement qui vous manque que vous demandez aux Centrafricains.
C'est moi qui donne la parole ici comme ça.
Après l'élection de Touadéra, nous perdons du temps.
Quelqu'un élu sur la base d'un projet de société...
Mais qui l'a fait ce programme?
Décliné en programme de gouvernement.
Mais c'est ça.
C'est pas aujourd'hui.
C'est ça le programme de gouvernement. On parle un à un pour se comprendre, s'il vous plaît. Vous allez prendre, vous prenez une autre, vous allez rebondir. Comme ça, vous finissez votre idée, monsieur, ce que vous avez dit, monsieur Gamana.
Je vous remercie. Alors, donc, pour moi, ces thématiques-là sont intercomplémentaires. Hein, et je pense qu'on ne peut pas négliger l'une en faveur de l'autre. Mais prioritairement, je crois que la paix, la sécurité peut être... comment dire, priorisée, puisque les autres ne sont que résultantes de cela. Mais on ne peut pas fonctionner dans un État... Sans pour autant, si on veut penser au développement, si on veut penser à la gouvernance, etc., il faut qu'il y ait d'abord la paix. Et je pense que ce qui a conduit aujourd'hui à l'organisation de ce dialogue, c'est parce qu'il y a eu tellement de crises dans le pays. Et ces crises-là ont fait que la RCA souffre parce que la paix, comme je l'ai dit, c'est un processus. Et qu'au sortir de ce dialogue, nous puissions trouver des solutions définitives. Et ces solutions-là vont être débattues, arrêtées à partir de ces différentes thématiques-là. Donc, quand nous écoutons tout à l'heure les compatriotes qui intervenaient, nous voyons que tout le monde fonde son espoir sur ce dialogue. Mais il y a aussi une inquiétude parce que leur inquiétude est du fait qu'ils aiment à ce que les recommandations ou bien les résolutions de ce dialogue-là puissent être véritablement appliquées. Mais à écouter les compatriotes, tout le monde est d'accord pour l'organisation de ce dialogue et tout le monde fonde son espoir sur ce dialogue-là.
Madame Pamela Derom, vous voulez répondre tout à l'heure.
Oui, tout à l'heure, je voulais répondre sur la question effectivement de la sécurité. Bon, je pense que certains l'ont dit ici. Pour nous, la paix et la sécurité, ce n'est pas seulement l'aspect militaire, c'est l'aspect social également. C'est ça. Et donc, pour nous, il faudrait effectivement tenir compte de tous ces différents points aujourd'hui pour qu'il y ait cette paix-là. C'est lutter contre l'injustice sociale au sein de la communauté. Aujourd'hui, c'est donner l'occasion également à la jeunesse centrafricaine d'être bien éduquée et bien formée. Parce qu'aujourd'hui, aucune société au monde ne peut prospérer si son capital humain n'est pas bien éduqué et formé. Et donc, pour nous, c'est la question
De la formation, de l'éducation, de
l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune. C'est ça qui amène aussi la frustration, vous savez. Et quand il y a la frustration, on n'aura pas la paix dans ce pays. Et c'est pour cette raison-là que nous avons, en ce qui nous concerne, redéfinir nos thématiques à nous. Nous avons préparé notre déclaration, que d'ailleurs nous allons le présenter lors de ce forum, pour que ces questions-là soient au centre des discussions. Mais vraiment que la jeunesse, et je l'ai dit, la paix ne peut que revenir dans ce pays. C'est quand et si et seulement si nous prenons au sérieux les besoins et préoccupations des jeunes et que nous répondons à ces besoins-là. Puisque nous le savons et nous le démontrons presque tous les jours, que les jeunes sont les bourreaux et les victimes. Et pour que ces jeunes-là ne deviennent plus les bourreaux, mais occupant ce jeunesse-là, accompagnant-la, donnant-leur les moyens afin qu'ils deviennent des acteurs du développement de leur pays.
Juste une précision, parce que je voudrais, pour la gouverne de nous tous ici et des auditeurs qui nous suivent en ce moment, dire que les thématiques qui sont ici proposées sont des grandes thématiques. Mais dans chaque thématique, nous avons des sous-thèmes. Hein, par exemple, quand on parle de paix et sécurité, là-dedans, il y a la question de la restructuration de l'armée, la question de RSS, la question de DDRR, etc. Donc, il y a des sous-thèmes qui vont être décortiqués et ça permettra aux participants de pouvoir s'exprimer et puis arrêter des résolutions.
Nous n'allons pas tous analyser et décrypter les 5 thématiques de ce dialogue aujourd'hui. Terminons avec la politique étrangère et coopération internationale. Pensez-vous que ce sujet est à point nommé? Si oui, pourquoi, M. Gazambiti? Vous avez une minute pour gagner du temps.
Ce sujet est à point nommé. C'est un sujet important parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons, même si nous sommes un pays enclavé, nous sommes un pays qui fait partie du monde. Nous sommes un pays qui est ouvert au monde. Et nous ne pouvons pas nous développer sainement aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, sans avoir de bonnes relations avec la sous-région et des pays qui sont dans d'autres continents. Donc, il faut traiter de ce sujet qui est important et voir comment pouvoir mettre en place une politique extérieure, une politique étrangère efficace qui profite non pas à une caste de dirigeants qui serait au pouvoir, mais qui profite à toute la population centrafricaine. Ça, c'est un de deux. Il faut également associer à cette politique extérieure des dirigeants de la classe politique qui ne sont pas forcément du parti présidentiel ou au pouvoir. Vous savez que dans certains pays, l'opposition démocratique également joue parfois un grand rôle qui profite à la nation dans le cadre de la politique extérieure. Un président de la République, parfois, a pour émissaire des opposants qui peuvent aller vers d'autres pays pour plaider la cause. Ce qui est dommage, c'est qu'en Centrafrique, lorsque nous sommes dans l'opposition démocratique, le plus souvent, la majorité des leaders de l'opposition démocratique font office d'outils qui aident à verrouiller le pays afin que les dirigeants qui sont au pouvoir ne puissent pas donner l'air dont la population a besoin. Donc la politique extérieure est très importante.
Vous l'avez déjà dit, que vous inspire, monsieur Bendonga, cette question ou cette thématique de politique étrangère et coopération internationale?
La politique étrangère et la coopération internationale sont du domaine de la diplomatie. Et la diplomatie centrafricaine, elle est à l'image du pays. Je pense que nous devons sortir de là où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre en vase clos, mais nous devons vivre avec les autres pays du monde. Ça, c'est une obligation. Lorsque j'entends dire par M. Gazambetti que c'est en Centrafrique l'opposition barre la route à ceux qui sont au pouvoir.
Non, pas toute l'opposition, certains leaders de l'opposition.
Oui, bien certains. Mais partout dans le monde, il y a des exceptions.
Oui,
Vous savez, j'ai jamais mis les bâtons dans les roues de M. Touadéra. Mes divergences avec lui, c'est par rapport à la non-prise en compte de mes propositions, de mes suggestions. Lorsque je disais qu'on devrait nous battre pour défendre notre pays, utiliser nos relations avec tous les États du monde, mais on m'a battu, on m'a mis en prison, mais aujourd'hui c'est ce qu'on fait. L'histoire me donne raison. Donc ce n'est pas toute l'opposition qui contrecarre les actions du gouvernement et à l'Assemblée nationale. Je suis le seul actuellement qui représente l'opposition. Mais lorsque les choses vont dans l'intérêt du peuple centrafricain, je le défends et parfois c'est moi qui le propose.
Et c'est tout ça, à votre honneur. C'est tout à votre honneur.
Oui, c'est votre patriotisme, je peux le témoigner.
Sur cette thématique politique étrangère, coopération internationale.
Oui, mais vous savez, la politique étrangère, que ce soit la coopération internationale, c'est l'un des outils de gouvernance. Je pense qu'aujourd'hui, comme disait Gazambetti tout à l'heure, on ne peut pas vivre en autarcie. Donc on est appelé à coopérer avec certains États, mais il faut que la diplomatie soit un peu plus offensive. Et c'est l'occasion, justement, dans ce dialogue-là, pour pouvoir voir quelles sont les forces et les faiblesses de notre diplomatie et de mettre en place un mécanisme qui puisse, parce que même si aujourd'hui nous arrivons à régler la question de paix et de sécurité, mais il nous faut une diplomatie forte pour pouvoir vraiment
galvaniser l'économie
et amorcer le développement.
Oui, Madame Pamela de Rome.
Effectivement, la question de la politique étrangère et coopération internationale prend en compte plusieurs autres dimensions également. Donc nous avons, en parlant de la diplomatie, il y a la diplomatie culturelle, sportive, qui est là. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes centrafricains qui, à travers leur talent, essaient de vendre un peu l'image du pays. Nous en avons vu il y a deux ou trois jours de là. Le continent, je dirais pour ceux qui sont un peu dans le domaine culturel, le continent africain était mobilisé. Le continent a veillé pour suivre en ligne ce qu'on appelle pour la première fois le concours Miss Monde.
Donc avec l'ivoirienne. Non
voilà, avec l'ivoirienne. Et vous avez vu qu'un peu partout, surtout à travers les émissions à la télé, dans chaque pays africain, les gens étaient mobilisés en veillant pour pouvoir suivre où est-ce que l'Afrique allait gagner. Et vous avez vu, mais malgré que la Côte d'Ivoire est arrivée en troisième position, mais ça fait bouger un peu la ligne, ça flottait le drapeau de la Côte d'Ivoire à ce concours Miss Monde. Donc pour nous, la diplomatie, c'est également accompagner les jeunes centrafricains qui œuvrent dans
le domaine culturel, sportif,
et aussi aujourd'hui, ceux qui sont dans des institutions internationales. Aujourd'hui, pour la première fois, la jeunesse centrafricaine est représentée au sein du bureau de la jeunesse africaine. Quels sont les moyens qui sont mis à disposition pour un accompagnement? Aujourd'hui, c'est le drapeau de la République qui flotte. Et donc, pour nous, la diplomatie et la politique étrangère, c'est aussi accompagner les institutions internationales, faire de sorte à ce que les centrafricains occupent des postes. Parce que ce n'est qu'en faisant cela qu'ils peuvent également mobiliser des ressources pour leur pays.
Madame Pamela Derom, Christian Gazambeti, Joseph Bindunga, Evariste Ngamana, fin de ce débat politique d'aujourd'hui, nous avons décrypté et analysé les thématiques qui seront traitées par les participants du dialogue républicain qui démarre ce lundi à Bangui. Merci à tous d'avoir pris part à ce rendez-vous. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.radiondekeluka.org. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et surtout prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Au revoir.